Zoé Sfez.
Et Olivier Tesquier, bon rebonsoir Olivier Tesquier.
Rebonsoir.
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, vous êtes journaliste à Télérama. Avant cela, vous étiez un ancien du site OVNI qui a beaucoup compté dans la manière dont la presse française et même le grand public a compris les questions numériques. Vous avez aussi été chroniqueur ici dans Software pour Frédéric Martel. Vous publiez deux livres en ce début d'année. Un livre qui paraît la semaine prochaine, coécrit avec Guillaume Ledy, dans la tête de Julian Assange. On parlera de Julian Assange en fin d'entretien. Personnage que vous connaissez bien puisque vous avez déjà publié Comprendre Wikileaks, ça c'était en 2011. Mais surtout, vous êtes l'auteur aux éditions Premier Parallèle d'un livre intitulé « À la trace » et dont le sous-titre « Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance » dit assez bien le projet. Alors, vous l'expliquez, les dispositifs de surveillance sont présents à peu près partout. Surtout, ils se sont imposés comme naturels, de moins en moins visibles, de mieux en mieux tolérés. Dans les deux premières parties de votre livre, vous essayez de comprendre d'où viennent et comment est-ce qu'ils sont mis en place. Donc, une première partie qui s'appelle « Contrôler », qui relève plutôt de la stratégie, disons, bien ancestrale de l'État, la volonté de contrôle de l'État. Et l'autre qui s'appelle « Capitaliser », qui rappelle, là encore, l'essor d'une économie à la Silicon Valley qui repose de plus en plus, qu'on le veuille ou non, sur la surveillance parce qu'elle repose sur la donnée. On a finalement le croisement de ces deux stratégies qui ne sont pas nécessairement des stratégies volontaires, en tout cas pas du côté nécessairement des entreprises, mais de fait qui aboutissent à un niveau de surveillance. Vous allez, qu'est-ce qui vous paraît inquiétant aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'en 2020 on est peut-être à un tournant?
Alors, il y a deux choses par rapport à ce que vous venez de dire. La première chose qui est à prendre en compte, c'est effectivement une forme d'hybridation aujourd'hui entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette surveillance régalienne avec les représentations populaires qu'on pouvait en avoir, des filatures, des écoutes, des grandes oreilles. Mais aujourd'hui, on a des entreprises qui participent pleinement finalement de cette surveillance à travers la mise en place de tout un tas d'outils et parce qu'elles partagent avec les États finalement la même double obsession qui est à la fois la prédiction des comportements, qu'elles soient à des fins publicitaires ou à des fins sécuritaires pour l'État, et pour l'automatisation. Et si possible, pour la prédiction des comportements via l'automatisation. Et le deuxième point qui est lié, alors là strictement, au développement des technologies de surveillance par des entreprises privées, et là encore que ce soit de très grosses entreprises ou que ce soit des entreprises et des acteurs plus clandestins, c'est la disparition, mais au sens de la gazéification presque,
vous utilisez des ça, dispositifs. C'est un système gazeux.
Oui, c'est ça, parce que tout est fait, en fait, pour que, ou bien les dispositifs n'apparaissent plus. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'acteurs effectivement clandestins qui sont sous la surface et qui participent de cette économie, de ce capitalisme de surveillance tel que l'appelle la chercheuse américaine Shoshana Zuboff. Et puis tout un tas d'acteurs qui ne veulent pas se présenter comme des acteurs de ce capitalisme de surveillance. Alors j'ai quelques exemples dans le livre. Je parle par exemple d'Instagram que j'essaie de voir comme un dispositif de surveillance dans la mesure où ça crée ce que Foucault appelait le continuum carcéral entre toutes ces institutions disciplinaires qui parcourent et qui jalonnent nos vies. Et puis pour les dispositifs qui sont plus invisibles, gazeux, on a aujourd'hui tout un tas de choses, des assistants vocaux, aux caméras, qu'on fait rentrer chez soi, des choses qu'on fait rentrer presque à l'intérieur de soi, et qui participent quelque part de notre abandon, ou en tout cas de notre reddition face à ces dispositifs.
Effectivement, alors vous revenez dans ce livre aussi sur effectivement Instagram, sur ce qu'intuitivement on peut appréhender comme un endroit où on sent nous-mêmes qu'on est à vue quasiment tout le temps, mais ensuite vous rentrez dans le détail, et il n'y a pas que vous, sur ce qu'effectivement suppose cette présence, ce déterminisme algorithmique, on le sent. En réalité, le système économique de la plupart des grandes entreprises dont on vient de parler repose, vous l'avez dit, sur la prédiction. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 96% des revenus de Facebook sont des revenus publicitaires, donc Facebook en fait est une immense régie publicitaire. La question des données personnelles, on en parle souvent ici, on parle souvent de la question de la vie privée. La star un petit peu de cette partie sur ce capitalisme de surveillance, c'est ce qu'on appelle les data brokers. On en a parlé souvent, qui ont abouti au scandale de Cambridge Analytica, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi précisément en dehors de l'idée qui pourrait nous déplaire du fait qu'en réalité les gens qui nous vendent de la pub savent tout de nous, quelles sont les potentielles dérives déjà existantes, de l'existence même de ces acteurs-là? Qui sait? Ces petites boîtes qui aspirent nos données, sans même qu'on le sache.
Alors, parfois, ce sont de très grosses boîtes. Ça peut être, c'est des entreprises qui peuvent valoir plus d'un milliard de dollars, qui sont d'ailleurs antérieures aux grandes plateformes numériques dont on parle souvent, parce qu'elles sont historiquement assez liées à l'émergence des sociétés qui font du calcul de score de crédit aux États-Unis, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Je les trouve particulièrement signifiants, ces data brokers, ce qu'on appelle aussi des courtiers en données, parce qu'ils sont les espèces de courroies de transmission à la fois entre les grandes plateformes auxquelles ils rachètent, revendent tout un tas d'informations, et puis aussi avec les États. Donc effectivement, ils participent de ce profilage publicitaire généralisé en étant des acteurs clandestins qui n'ont pas vocation à avoir pignon sur rue. Et il faut noter à cet égard que si on veut faire supprimer des informations par les courtiers en données, comme l'avait fait une journaliste américaine qui s'appelait Julia Angwin, qui avait identifié et contacté plus de 200 courtiers en données pour faire supprimer ou rectifier des informations, et s'était vu rétorquer qu'il fallait fournir davantage d'informations pour pouvoir les faire supprimer. Et alors, pour les dérives...
Alors en plus, elle avait réussi, mais elle n'avait jamais eu le droit de savoir quelles informations avaient été recueillies sur elle.
Ce qui est finalement exactement la même logique que quand vous faites une requête auprès des autorités pour savoir ce qu'il y a dans un fichier de police vous concernant. Donc on se rend bien compte que c'est un niveau d'opacité qui est assez toxique. Et deux exemples de dérives qui me semblent assez évidents. Un qui est un exemple qu'on peut vivre individuellement et puis un autre qui est plus collectif. L'exemple individuel, c'est celui que je cite dans le livre où on a qui est arrivé à deux femmes, une sociologue, Marie Ebling, et puis une journaliste du Washington Post, qui sont tombées toutes les deux enceintes, qui ont fait une fausse couche et qui, à la suite de cette fausse couche, se sont vues proposer pendant des mois, voire des années, tout un tas de publicités pour leur bébé marketing qui était finalement...
D'une certaine manière, ça prouve qu'ils n'étaient pas si bons, donc c'est presque un contre-exemple.
Ça prouve qu'ils ne sont pas si bons, et on en vient à mon deuxième exemple, dans la mesure où on est enfermé finalement dans un profil numérique qu'on calcule de nous, on est enfermé dans une représentation de nous qui nous échappe un peu et sur laquelle on n'a plus vraiment de prise. Aux États-Unis, aujourd'hui, la police de l'immigration, qui est très aidée par tout un tas d'entreprises numériques, on aura peut-être aussi là aussi l'occasion d'en reparler, sont aussi épaulés par tout un tas de courtiers en données qui appliquent à des fins d'identification et d'expulsion des immigrés les mêmes outils qui sont les outils publicitaires déployés sur les citoyens américains. Donc on voit assez bien, finalement, la porosité extrêmement faible et de plus en plus fine, en tout cas, entre des finalités qui sont des finalités purement publicitaires et qu'on regarde finalement d'un air un peu distrait, et des finalités qui sont beaucoup plus inquiétantes pour les libertés publiques.
Et avec à chaque fois une marge d'erreur, ça on l'a dit, on l'a redit évidemment parmi
les
systèmes
de fichage. Oui, il y a aussi ces prêtres qui arrivent sur Facebook et qui disent qu'ils sont célibataires et hop, ils reçoivent plein d'annonces de sites de drague parce qu'ils sont célibataires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Oui, est-ce que vous conseillez de se retirer des réseaux sociaux finalement?
C'est compliqué, la question du retrait est très difficile parce que...
Vous répondez que non.
C'est une réponse assez imparfaite. Moi, je compare beaucoup les petits gestes numériques aux petits gestes pour l'écologie. C'est-à-dire que pour l'écologie, on achète bio, on trie ses déchets, on fait pipi sous la douche, ce genre de choses, en espérant que ça va sauver la planète.
Non, ça c'est pas bien.
On nous dit que c'est la meilleure chose à faire. Pipi sous la douche, mais c'est pas le sujet.
Et pour le numérique, on nous dit, il faut supprimer son compte Facebook, désactiver la géolocalisation, trouver comme ça tout un tas de parades pour essayer
après,
de...
Après, on n'a plus d'accès à... Il n'y a pas l'emploi, ni à sa sécurité sociale.
Voilà,
ni...
le souci, c'est qu'il y a un coût social à cette disparition. Et puis surtout, on est finalement toujours très seul dans cette espèce de marchandage très illusoire avec des grandes plateformes dont on sait qu'elles violent de manière très routinière l'espèce de pacte faustien qu'elles nous font signer. Je prends pour exemple les multiples scandales qui ont émaillé la vie de Facebook ces dernières années. Et donc finalement, on est dans cette espèce de solitude technologique face à...
On fait quoi?
Et alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes. La première, c'est déjà d'essayer de remobiliser le langage, qui est...
C'est votre grande proposition. Vous proposez, et vous n'êtes pas le seul, on va parler quand même de reconnaissance faciale, parce que c'est quand même un sujet important, d'arrêter de parler de vidéoprotection, parce que c'est le terme. Hein. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une gare, vous êtes dans une zone vidéoprotégée, et non vidéosurveillée. Et vous militez, vous n'êtes pas le seul, sur les termes comme données personnelles, dont vous considérez qu'en réalité, ce sont des informations intimes, et que si on les présentait en tant que telles, elles reprendraient leur juste valeur. Et même l'idée de vie privée, qui est en fait une traduction relativement malheureuse du terme américain privacy, est-ce qu'il est finalement si intéressant que ça? On a alors des penseurs plutôt définitivement à l'opposé, comme Yevgeny Morozov, qui aimerait qu'on parle uniquement de liberté ou de dignité, en tout cas.
C'est vrai que tout ce vocabulaire-là, notamment effectivement données personnelles, ça donne l'impression que on est juste en train de marchander ses propres données face à des entreprises. Et je pense que une rhétorique assez forte qu'on a pu entendre notamment dans l'affaire Snowden, ou en tout cas après l'affaire Snowden, la rhétorique du « j'ai rien à cacher » est assez liée justement à cette espèce de solitude programmée face à la machine. Ellul écrivait déjà dans les années 50 qu'on est seul face à la technique. Aujourd'hui, face à notre smartphone, on est encore plus seul finalement. Donc je pense qu'il est nécessaire de repenser un peu collectivement ces sujets-là. Et de la même manière sur la vie privée, moi quand j'entends Vint Cerf, qui est l'un des fondateurs d'Internet et qui aujourd'hui est évangéliste en chef, parce que c'est vraiment son titre de Google, et qui nous explique que finalement la vie privée n'était qu'une parenthèse de l'histoire. Alors ça fait mal de l'admettre, mais il n'a pas complètement tort. Dans
au moins c'est pas hypocrite. Laurence Angel sur ça, une petite réaction.
Oui, non, mais c'est ce que je trouve important, c'est aussi simplement d'en parler, parce que par rapport à ce qu'on pouvait se dire il n'y a pas moins de 5 ou 6 ans, on était encore dans un angélisme total face aux acteurs du numérique. Personne n'osait même dire qu'il y avait ces risques. On était encore dans l'idée que le numérique, le net, la neutralité du net, enfin tout le vocabulaire du numérique était un vocabulaire positif. Et il était hors de question alors de parler d'une taxation des GAFA, mais de parler de défense d'un certain nombre de libertés, ce n'était que des gros mots. Donc le fait simplement que vous écriviez ce livre, qu'un certain nombre d'autres en parlent, est déjà aussi un progrès. Ça ne veut pas dire qu'on a la solution technique pour y arriver, mais ça permet que chacun soit un tout petit peu plus conscient du monde dans lequel il vit. Et on voit bien aussi que le monde géré par le privé n'est pas plus facile, n'est pas plus fait de liberté qu'un monde géré par un État qui serait surpuissant.
Vous le dites, Olivier Tesquet, on a effectivement plusieurs plaintes qui sont déposées aujourd'hui par la CNIL, par la Quadrature du Net, qui sont souvent vues comme des gauchistes extrémistes, mais vous le dites, il y a de plus en plus des poches technocritiques au sein même de la Silicon Valley.
La CNIL n'est pas le gauchisme.
Mais je veux dire, qui émane même des entreprises dont on parle, Amazon, chez Google, chez Facebook, on a interviewé Tristan Harris. Un petit mot quand même sur la reconnaissance faciale, qui est au cœur de l'enjeu des États, pour le coup. On parle comme si c'était très lointain et très effrayant du système de reconnaissance faciale en Chine et du système de crédit social. En France, on est quand même sur des problématiques qui se rapprochent de plus en plus, avec des systèmes de reconnaissance faciale qui ont été testés dans les stades, qui ont été proposés notamment par Christian Estrosi dans les lycées à Nice. Il y a eu la question d'un référendum, d'un moratoire. On en est où en France de cette question de la reconnaissance faciale, concrètement ?
Alors sur la France spécifiquement, les dernières déclarations officielles entre guillemets sont celles de Cédric O juste avant Noël, qui nous expliquait que finalement le cadre d'expérimentation était nécessaire, ce qui est une manière de dire que la technologie est là, qu'on travaille, comme je l'entends très souvent et chez les industriels et dans les ministères, sur l'acceptabilité de la technologie, ce qui est une manière assez pudique de parler de son imposition. Donc la situation c'est celle-ci, parce qu'on a des acteurs industriels qui sont très performants sur la biométrie, je pense à IDEMIA, je pense à Thales qui a racheté Gemalto, donc il faut les faire vivre quelque part.
Ces entreprises françaises.
Voilà, ces entreprises françaises. Les positions qui éliminent d'un revers de la main la reconnaissance faciale sont considérées aujourd'hui comme irrationnelles. En tout cas, c'est là aussi la façon dont elles sont présentées. Et puis au niveau européen, j'ai entendu parler ces derniers jours d'une question de moratoire qu'on pourrait imposer au niveau de l'Union. Alors, j'émettrai quand même un gros bémol sur ce moratoire tel qu'il a été proposé, c'est qu'il prévoit deux exceptions aujourd'hui, que sont les finalités de recherche et les finalités policières, ou sécuritaires en tout cas, qui sont précisément les deux cadres dans lesquels la reconnaissance faciale est testée, et testée aujourd'hui dans des conditions très discrétionnaires, et notamment parce que vous avez des entreprises, encore dans cet exemple d'hybridation entre le public et le privé, vous avez tout un tas d'entreprises qui vont démarcher des collectivités territoriales pour leur offrir du matériel, pour leur offrir des caméras intelligentes, pour leur offrir des capteurs, etc. Tout ça se fait en contournant d'un côté la commande publique, qui est quand même censée garantir que tout ça se fait dans les règles, et en contournant de fait le débat public nécessaire, surtout dans un espace urbain qui est habité par des personnes et qui devrait accompagner ce type de technologie.
Et Cédric O qui refuse désormais de s'exprimer sur ce sujet depuis au moins la fin de l'année dernière.
Mais sur l'ensemble de ces questions, est-ce que si on veut être un peu avocat du diable, Olivier Tesquet, on peut pas dire, d'une part, est-ce que on n'était pas très naïf de penser que tout ça ne serait pas dans la surveillance, de premier point. Deuxième point, vous parlez de pacte faustien. Après tout, on peut aussi dire que c'est tout simplement une sorte d'accord qui est signé, accepté par la plupart. C'est au fond la gratuité contre un échange de données, qui est d'ailleurs souvent automatisé. si le débat c'est on doit payer 10 euros pour avoir Facebook ou Google sans données, est-ce que vous serez suivi par le grand public? C'est pas évident. Dernier point, est-ce que tout ça n'est pas, au lieu de s'obséder par la question des données comme on le fait beaucoup en France, est-ce que la priorité c'est pas d'avoir des acteurs français plutôt qu'au fond de tout faire pour que ça n'arrive pas en France et que ce soit toujours les Américains qui gagnent ces batailles contre nous?
Alors sur la question de la naïveté, je ne sais pas si on a été naïf, je pense un peu. Je fais partie de cette génération qui a beaucoup cru justement à la libération par le numérique, qui a vu les printemps arabes et qui était propulsé comme ça par les réseaux sociaux d'un œil très enthousiaste. Et puis bon, ensuite, il y a eu un peu la douche froide, la reprise en main, d'abord par les régimes autoritaires et puis ensuite par les démocraties libérales. On est à la fois naïf, mais aussi participant. C'est-à-dire que la question de notre propre désir à participer à ces dispositifs et à les mettre en place. Quand vous achetez une caméra Ring d'Amazon et que vous faites de votre domicile très concrètement aux États-Unis, parce qu'il y a des partenariats avec la police, l'annexe d'un commissariat.
Ouais, c'est un peu une exagération, mais en fait.
Ah non, c'est pas une exagération. Non,
en même temps, c'est le choix que vous faites. Si vous voulez pas être sur Facebook, vous n'êtes pas sur Facebook. Personne ne vous oblige à être sur Facebook. Donc, il y a un moment, comment vous pensez pouvoir gagner même l'opinion publique française sur ces idées qui sont extrêmes. Tout le monde a envie de ça. Et donc, que qu'on signe l'alerte, certes.
Alors, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que. Sur les données personnelles, j'écris sur ces questions-là depuis suffisamment longtemps pour savoir que quand on parle de données personnelles,
on a déjà perdu la moitié 0,5% de l'opinion qui vous suit.
Mais précisément parce que ce vocabulaire-là est très dépolitisant. Aujourd'hui, ce qui se joue, et je pense que la reconnaissance faciale est un très bon exemple de ça, ce qui se joue, c'est l'invasion des corps. On n'est plus en train de parler des données personnelles hypothétiques, de choses très...
Face au risque d'attentat à la gare de Lyon, vous ne gagnerez jamais. Enfin, cette bataille, vous ne pourrez pas la gagner.
C'est exactement ce qu'il dit, ouais. C'est précisément la raison pour laquelle il faut essayer de résister à l'infusion de ces discours sécuritaires.
Vous ne voulez pas qu'on puisse avoir des caméras qui éventuellement évitent un attentat à gare de Lyon?
J'ai l'impression d'entendre Christian Estrosi.
Non, mais la question, vous faites l'avocat du diable. Non, mais est-ce qu'on peut dire deux choses? Il est faux sur le passe, peut-être, le pacte, dans ce sens que tout le monde n'a pas conscience de ce qu'il laisse dans ce pacte. D'une première partie. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas conscience, par exemple, que quand il installe une caméra Ring, c'est une caméra qui va tout enregistrer, qui va potentiellement être regardée, écoutée, pas uniquement par des robots, mais par des humains. Et deuxième chose, et c'est l'argument quasiment de toutes les institutions de liberté publique, l'idée, c'est de se dire, oui, peut-être qu'on peut inviter un attentat à gare de Lyon, et que se passe-t-il si on a un changement de régime demain ou après-demain?
C'est-à-dire
l'État.
C'est surtout qu'on est face à des technologies qui effectivement échappent à tout contrôle. Je reprends l'exemple des caméras Ring aux États-Unis qui non seulement sont accessibles par 600 forces de police locale qui avec un identifiant et un mot de passe peuvent accéder à ce qui se passe devant chez vous, où il y a des incitations financières pour vous équiper, ce qui montre bien à quel point finalement c'est comme si vous achetiez un vélo électrique.
Oui, encore plus en Chine et encore plus
évidemment,
en Iran.
Justement, ce repoussoir chinois est assez intéressant. Et aux États-Unis, ce qui est en train de se passer avec ce système d'Amazon, qui est en train de se transformer en tant qu'entreprise en véritable acteur le plus inquiétant de ce nouveau monde numérique, c'est finalement la création d'un réseau de vidéosurveillance clandestin qui échappe à tout contrôle. Parce que qui va mettre son nez là-dedans? Prenons l'exemple la semaine dernière de cette société américaine dont personne n'avait jamais entendu parler, qui a été nommée dans le New York Times, qui s'appelle Clearview, qui avait mis au point, en aspirant tout un tas de données, de visages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., une base de données de 3 milliards de visages, ce qui est 7 fois et demi plus gros que la base de données de reconnaissance faciale du FBI. Et c'est pas fait avec des moyens colossaux, c'est une start-up et des bouts de ficelle. Et donc finalement, le fait qu'on ait l'émergence d'acteurs comme ça, qui peuvent être des acteurs absolument pas contrôlés, de tailles tout à fait diverses, et qui échappent complètement à tout contrôle, pose des questions quand même, je trouve, relativement importantes dans la façon dont on devrait les appréhender.
Bien.
Merci beaucoup Olivier Tesquet. Alors, vous pouvez
le livre s'appelle
«
À la trace »,
oui,
enquête sur les nouveaux territoires de surveillance. Parler. Rappelons aussi le livre sur Julian Assange.
Et on rappelle en deux mots quand même que Julian Assange a été libéré, a été sorti du quartier d'isolement de la prison dans lequel il était depuis qu'il avait été incarcéré à la demande de ses avocats et de ses co-détenus.
Frédéric, vous vous êtes fait traiter de Christian Estrosi tout de même.
Il l'a bien cherché.
C'est extraordinaire.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup.
Cette émission, on entend de tout.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup. Je crains de Christian Estrosi dans la police, dans l'administration.
C'est tout à fait.
Et pas que chez les gens, c'est chez les Français aussi, je pense.
Heureusement, il y a Olivier Tesquet face à tous ces gens. Dans un instant, on retrouve Laurence Ingel, la présidente de la Bibliothèque nationale de France, juste après Darkness. C'est pas un code secret au passage pour introduire la BNF, rassurez-vous. Extrait du nouvel album du rappeur américain Eminem sur une reprise de la chanson Sound of Silence. de Simon & Garfunkel, Eminem veut choquer les consciences et affirmer son engagement contre le port d'armes à feu aux États-Unis. Un morceau sur la solitude d'un homme prêt à commettre un massacre dans un album résolument engagé et noir, et des rimes qu'il veut lui-même comme des lames affûtées. If I pop any caps, it better be off of vodka. Round after round after round, I'm getting loaded. That's a lot of shots, huh? I don't trust my friends. I wanna be alone in the darkness. Yeah. I don't wanna be alone in the darkness. I don't wanna be alone in the darkness anymore. Now I'm staring at the room service menu off of Benzo. I can hear the music continue to crescendo. I can see the whole fucking venue from my window. That's when you know you're schizo. Cause I keep peeking out the curtain from the hotel. The music is so loud, but it's almost as though I don't hear no sound. I should get ready for the show now. Wait, is this the whole crowd? I thought this shit was sold out. But it's only the opening act. It's early, don't overreact. There's something told me relax and just hope for the show to be packed. Don't wanna hit the stage before they fill each row to the max, cause that'd be totally whacked. You can't murder a show nobody's at. But what if nobody shows? Panic mode, bout to snap and go motherfucking wacko at any second. About to cancel the show just as fans below rush the entrance. Plan is to go direct-ish, cameras in all directions. The press is about to go ape-ish.